enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Bonjour. Oui, bonsoir plutôt. Oui, quelqu'un a dit bonsoir, c'est bien. On peut même dire bonne nuit déjà. Hein? Mais ne vous endormez pas ici, parce que quand le concierge va fermer, vous allez rester tout seul. Alors, ce soir, j'ai envie de vous parler d'un thème qui est... Non, d'abord, je vais vous raconter une petite histoire. Une petite histoire qui arrive assez souvent. Lorsque une réunion se termine, alors tout le monde sort, se retrouve sur le parking, et il arrive quelquefois que... on aperçoive quelqu'un qui, derrière une voiture, ou plutôt derrière une camionnette, fume une cigarette. Vous avez déjà vu ça? Et alors, quelquefois, les chrétiens regardent ça de loin. Ouais. Et le jugement commence à pointer. D'autant plus que, quelquefois, ceux qui jugent sont quelquefois des gens qui ont eux-mêmes fumé longtemps et qui ont eu beaucoup de peine à s'arrêter. Mais ça fait longtemps, ils ne se souviennent plus. Alors, ça m'a fait réfléchir. Non pas que je sous-tendrai que ça n'a pas d'importance. Tout ce qui est... Ça siffle, hein, c'est normal, non? C'est pas moi, hein. Non pas que je voudrais dire que ça n'a pas d'importance. Si quelque chose en soi n'est pas bon, c'est pas bon. Mais ce qui est intéressant, c'est plutôt ce que nous, on va faire de ce que les autres, de ce que les autres font. Pour être clair, je crois que c'est quelque chose qui est mauvais devant Dieu, n'est-ce pas, hein? Un jour, un jeune m'a dit, mais, avec un petit sourire, il m'a dit, mais, est-ce que fumer, c'est mauvais? Ben, j'ai dit, bien sûr, c'est mauvais. Il m'a dit, mais c'est écrit où dans la Bible, hein? Alors, évidemment, s'il attendait que dans, s'il voulait dire par là qu'il n'y a pas, évidemment, je sais pas moi, 1 Corinthiens 17, du fumeur, etc. Évidemment, dans la Bible, on ne parle pas de la cigarette puisque ça a été inventé, hélas, beaucoup plus tard. Mais je lui ai dit, bien sûr, la Bible parle de ça. Alors il rigolait, il m'a dit, ah ouais, fais-moi voir. J'ai dit, mais bien sûr, je te montre tout de suite. La Bible nous montre que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et Dieu dit, celui qui détruit le temple du Saint-Esprit, Dieu le détruira. Il me semble que c'est assez clair. Toutes les études ont toujours montré que fumer ne contribue qu'à détruire le corps et la santé. Donc, tu vois bien que la Bible parle de la cigarette. OK? Mais, ce que je trouve un petit peu, quelquefois, par contre, un peu regrettable, c'est la façon dont nous portons un jugement sur ce que nous reconnaissons comme mauvais chez les autres, hein, en oubliant de regarder chez nous. Et par exemple, on jugera, j'ai pris l'exemple de la cigarette parce que c'est un truc qui est très très typique, hein, parce que d'abord c'est quelque chose qui se voit chez l'autre, hein, alors que comme le dit l'apôtre Paul, certains péchés se voient comme à l'œil, d'autres n'apparaissent que plus tard. Parce qu'il y a des choses qui se voient pas, qui sont aussi des mauvaises fumées, mais qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas d'odeur. Mais ça, c'est quelque chose qui se voit facilement, sur lequel on peut facilement porter un jugement. Mais vous avez des gens qui, par exemple, sont esclaves de trop manger. Et ça, aujourd'hui, on sait, en France et dans les sociétés occidentales, que la santé publique est menacée au moins autant par le trop manger et le mal manger que par le tabac. Mais ça, c'est quelque chose qui, comme c'est une question de quantité, comme c'est une question d'excès, parce que en soi, manger, c'est quand même normal, quoi. Oui, non, je veux dire continuer, hein. Mais c'est une question de quantité. Donc l'excès se voit beaucoup moins facilement. Et quand quelqu'un est quelqu'un qui mange trop, il dira jamais je suis un glouton, il dit oh moi j'ai un bon appétit. Ah. Voilà. Mais la Bible condamne exactement autant les excès de table que par exemple le fait de fumer, parce que les excès de table contribuent également à détruire le corps et la santé. Aujourd'hui, une des premières causes de mortalité dans certaines catégories d'âge sont les maladies cardiovasculaires, qui sont évidemment fabriquées par le cholestérol, qui est une conséquence assez directe du trop et du mal mangé, quoi. Mais on n'a pas forcément directement l'impression, quand on pêche sur un sujet comme ça, on n'a pas forcément directement l'impression qu'on est en train de pêcher. Donc on peut facilement porter un regard de jugement clair sur, par exemple, quelqu'un qui fume une cigarette, en oubliant qu'on est coupable d'un péché exactement semblable, simplement en le transposant dans un autre domaine, quoi. Et ça, c'est intéressant, parce que si on peut faire ça sur des points comme ça aussi clairs, peut-être qu'on peut le faire aussi dans des domaines où c'est moins net, où c'est plus difficile. Alors, on peut lire, si vous voulez, dans l'évangile de Luc, au chapitre 6, un petit paragraphe qui concerne un peu ce genre de choses, ce genre d'attitude. Et puis, on en dégagera quelques petites réflexions. Luc, chapitre 6, et au verset 37, alors on fait une lecture un petit peu longue, jusqu'à 45 par là. 45, c'est pas l'heure, hein, c'est les versets. Voilà, tout le monde a trouvé. Ne jugez point, dit Jésus, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Acquittez, et vous serez acquittés. Donnez, et on vous donnera. On va verser dans votre sac une bonne mesure, rabord, parce qu'on va vous mesurer avec la mesure dont vous-même vous vous servez. Et alors Jésus leur a dit aussi cette parabole. Si un aveugle conduit un autre aveugle, est-ce qu'ils ne vont pas tous les deux tomber dans un trou? Le disciple n'est pas plus que son maître, hein. Mais tout disciple sera comme son maître. Bon, ça, on n'en parle pas, parce que ça, c'est un verset que Samuel s'est approprié. Donc, alors, verset 40. Le disciple, hein, 41. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, oh, mon frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien? Hypocrite. Enlève d'abord la poutre de ton œil, et alors après, tu pourras commencer à voir clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Hein? C'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit. C'est pas un mauvais arbre qui porte du bon fruit. On reconnaît chaque arbre à la nature de son fruit. On cueille pas des figues sur des épines. On vendange pas des raisins sur des ronces. Mais l'homme bon tire des bonnes choses, du bon trésor, de son bon cœur. Et le méchant tire des mauvaises choses de son mauvais trésor. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alors, il y a beaucoup de choses dans tout ça. C'est pas toujours évident directement que tout ça soit complètement lié. Et on pourrait avoir tendance à séparer, à saucissonner un peu, si j'ose dire, ce passage, comme ça on tranche un petit bout. En fait, c'est quand même tout un paragraphe qui fait partie d'un même enseignement. Il y a une unité réelle dans ce passage qui est autour de cette notion de ne pas juger. Ne nous jugeons pas les uns les autres. Alors on va voir ce que ça veut dire ne pas juger, et puis après on verra aussi à la fin, en complément, quelque chose d'autre où Paul dit qu'il nous faut savoir juger. Et souvent, il y a pour certains chrétiens ou lecteurs de la Bible, ça devient un petit peu difficile, parce que certains versets semblent dire qu'il faut pas juger et d'autres versets disent qu'il faut juger. Alors on dit, il faudrait savoir comme ça. Bon, on va essayer de voir, hein, ça tranquillement. Et cette idée, cette parabole, en tout cas, est passée vraiment dans la, j'allais dire, dans la conscience, la conscience de populaire de tout le monde. Tout le monde connaît l'histoire de la parabole de la paille et de la poutre. Même des incroyants, des inconvertis utiliseront quelquefois cette image en disant, oh, c'est quelqu'un qui voit toujours la paille dans l'œil de l'autre, hein, mais il voit pas la poutre qui est dans l'œil. Moi, j'aime bien cette image. Vous imaginez quelqu'un, hein, Jésus nous présente quelqu'un qui a une poutre qui est dans son œil. Vous voyez ça? Un espèce de, un chevron, voilà, un chevron, hein. Alors, il a un chevron qui sort de son œil comme ça, peut-être sur, qu'est-ce qu'on va dire, 2 mètres? Ça va, 2 mètres? Bah oui, c'est quand même un chevron, hein. S'il fait 10 centimètres, c'est un cube. Non, c'est un chevron. C'est une poutre. Alors, il s'approche de vous avec ce chevron qui sort de son œil comme ça, là, et il dit, attends, j'ai vu quelque chose dans ton œil. Mais vous le laissez pas s'approcher, il va encore vous assommer, en plus. C'est un type dangereux, ça. Alors, évidemment, c'est une image. Mais le propre d'une image, c'est forcément, par définition, d'être hyperbolique. C'est forcément exagéré. C'est comme lorsque Jésus dit vous filtrez le moucheron et vous avalez le chameau. Bon, évidemment, on n'imagine pas que quelqu'un avale un chameau. Bon, mais cette idée est très intéressante parce que elle montre de façon très claire, hein, cette notion. Ne jugez pas. Ne jugez pas. Réellement, nous ne savons pas ce qui est à l'intérieur du cœur, des pensées, de la vie de chacun. Nous ne pouvons pas, nous n'avons pas les moyens. Nous n'avons jamais toutes les cartes pour juger réellement de la valeur d'une personne. Dieu seul connaît les cœurs. Personne, nous n'arrivons jamais, les uns et les autres, face à une situation avec la même vie. Avec le même passé, avec le même historique, avec la même connaissance, avec les mêmes forces, avec les mêmes capacités. Des situations dans lesquelles nous voyons un frère, une sœur chuter, ça nous paraît des fois tellement dit, mais c'est incroyable, enfin comment il n'a pas résisté à ça? Oui, mais est-ce que il est dans la situation, une situation que nous connaissons? Si nous étions passés par les mêmes choses, si nous avions vécu toute la même chose, aurions-nous peut-être fait pire? Comprenez-moi, je ne veux pas dire que nous devrions porter un regard d'indulgence sur tout et puis devenir relativiste et ne plus juger de rien. Il ne s'agit pas de perdre son sens critique. Il ne s'agit pas de ne plus regarder les choses telles qu'elles sont. Il ne s'agit pas de dire tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, on ferme les yeux, tout va bien, tout est parfait, tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit d'être réaliste, mais être réaliste, c'est reconnaître que nous n'avons pas les capacités de juger ce qui se passe dans le cœur de ceux qui nous entourent. Comme nous aimerions aussi, quelquefois, ne pas être jugés par ceux qui nous entourent aussi, n'est-ce pas? Je me souviens quand il y a un certain nombre d'années, mais on avait vu des serviteurs de Dieu de passage qui étaient américains, qui étaient passés nous voir, et alors on était frappé par certaines différences culturelles qu'il y avait. Par exemple, pour eux, c'était, et ça l'est encore dans certaines cultures évangéliques, hein, boire un coup de rouge, c'était, pour eux, ça leur paraissait comme le sommet de la mondanité. C'était inacceptable. Ils n'arrivaient pas à comprendre comment quelqu'un pouvait se dire chrétien et boire une fois un petit verre de vin en mangeant. Pour eux, c'était extraordinaire. Et alors, il portait un regard vraiment sévère sur ce monde évangélique européen, français, qui vivait dans une telle mondanité. Mais ce qu'ils ne se rendaient pas compte, c'est qu'ils arrivaient avec leurs épouses qui, à l'époque, étaient maquillées d'une manière qui était totalement inacceptable dans les milieux culturels évangéliques français. C'était totalement inacceptable. Bon, aujourd'hui, on serait moins choqué, mais la culture, par définition, c'est quelque chose qui est voué à évoluer, forcément. Il n'y a jamais eu une culture définitive. Toute culture, Une culture, c'est un ensemble de concepts éthiques, d'us et coutumes, qui ne peut que changer. Donc ça a changé depuis. Mais enfin, à cette époque-là, eh bien, quelquefois, leurs épouses arrivaient et elles nous apparaissaient comme dans des tenues qui nous faisaient honte. Comment peut-on être chrétien et s'affubler de cette sorte? Vous voyez? Alors, on avait chacun un exemple de jugement et de la mondanité vu à travers la lorgnette de l'un, à travers la lorgnette de l'autre. Je ne dis pas que rien n'a d'importance. Je dis que ce que nous en faisons est important. Combien de fois des gens ont condamné, par exemple, la mondanité de certains chrétiens qui sont plus riches qu'eux et qui portent des vêtements un petit peu coûteux ou qui ont des voitures, etc., de prix, etc. Et vraiment, ça leur a paru très, très mondain jusqu'au jour où, par exemple, ils ont fait un gros héritage et où maintenant, ils pouvaient aussi accéder aux mêmes choses et tout d'un coup, leur regard a beaucoup changé. Vous voyez ? Tout d'un coup, ils sont devenus beaucoup plus ouverts. Et ils ont su remercier Dieu de sa grâce, de sa bonté, de sa miséricorde abondante. Voyez, une fois, j'ai un peu ri, enfin intérieurement, avec un chrétien qui, j'étais avec Brigitte, qui nous a expliqué que comment il a dit. Enfin, un peu, il nous a dit que lui, il avait renoncé à tout. Et on était chez lui, et je trouvais que le peu qui lui restait... Bon, pour moi, ça aurait été une promotion, quoi. Hein. Mais après, il était très sérieux. Et après, en discutant, il nous a raconté, effectivement, à quoi il avait renoncé. Et comment ils vivaient avant? Et ce qu'ils avaient avant? Et là, j'étais impressionné. Là, je me suis dit, mais j'ai jamais renoncé à tant, moi. Moi, j'ai jamais renoncé autant que ça. Vous voyez, tout dépend d'où on part. C'est toujours bien plus facile de renoncer à tout quand on n'a rien. Vous comprenez? C'est normal. Alors, Jésus dit, ne jugez pas. Et vous ne serez pas jugés. Cette notion, vous voyez, de la paille et la poutre, c'est la notion de quelqu'un qui voudrait corriger les autres, mais qui n'a pas décidé d'abord de se corriger lui-même. Et par définition, non seulement il ne peut pas aider l'autre, mais lui-même s'enferme en plus dans un état qui devrait changer, et qu'il ne peut pas changer parce qu'il n'accepte déjà pas de le voir, de le reconnaître, et parce qu'il est à ce moment-là incapable. Et non seulement il ne peut pas aider l'autre, mais comme le dit la parabole, il est même quelque part, il est même dangereux. Il est même dangereux, il va occasionner, non pas il ne va pas l'assommer avec son truc, mais d'abord il va l'assommer par ses paroles. Et il y a des fois des gens qui disent, oh celui-là il est assommant, vous voyez, hein, c'est ça. Alors il est dangereux. Il nous faut... par exemple, je reprends encore un exemple qui nous concerne. Combien de fois, lorsque nous regardons, c'est un exemple plus général, pas individuel, mais plus général, on regarde ce qu'on vit dans d'autres dénominations chrétiennes, par exemple, et on dira, ah, chez les baptistes, ouais, au niveau de doctrine, ils n'ont pas tout juste, parce qu'il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, non. Chez les tels, istes, ils sont dans le doctrinement, il y a ça et ça, c'est pas tout à fait juste. Chez les autres istes, il y a quelque chose qui ne va pas. Et bref, chez tous les autres istes, il y a toujours quelque chose qui doctrinalement ne va pas. Et puis après, on dit, point, c'est tout. Mais est-ce que c'est intelligent? Si chez tout le monde... On a vu qu'il y a quelque chose qui devrait être un peu corrigé. La seule conclusion logique, c'est que chez nous, il devrait aussi, il y a forcément aussi quelque chose qui n'est pas parfait. Non? Ah ben, j'espère qu'on le reconnaît. Alors vous allez me dire, oui, mais alors comment? Alors après, on ne sait plus en quoi on croit. Si, on sait en quoi on croit. On est sûr de ce qu'on croit. Et en même temps, on est sûr qu'il y a des points qui sont incomplets. Et en même temps, on est sûr qu'il y a des points où peut-être, j'espère, il y a des petites erreurs. J'espère qu'elles sont petites devant Dieu. L'apôtre Paul disait, nous connaissons en partie. Alors nous, on est quoi pour croire qu'on a la science infuse? Si vous faites des infusions, vous prenez autre chose. Mais pas ça. Ça marche pas. Mais facilement, on a, voyez. Alors sur cette base-là, facilement, on va juger les autres ci, les autres là, etc. Mais on oublie de regarder ce qu'il y a changé aussi chez nous. Regardez comment Jésus manie l'ironie au verset 42. Comment peux-tu dire à ton frère, oh mon frère, je sais pas pourquoi dans ce second ils ont oublié ils ont enlevé le mot, mais c'est ironique, c'est doucereux, c'est cette espèce d'attention mielleuse de ceux qui veulent corriger les autres et qui veulent pas se changer les autres. Mon frère, mon ami, tu sais. Mais attends, mais regarde-toi. Alors. La suite, voyez. Quand Jésus dit « ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit », on peut avoir l'impression qu'on passe à autre chose. En réalité, maintenant, ce côté d'enseignement vient compléter cette question du jugement. Le jugement consiste à reconnaître ce qui est mal, mais l'enseignement consiste à proclamer ce qui est bien, à enseigner ce qui est bien. Et c'est une meilleure façon de progresser, d'enseigner ce qui est bon, de propager ce qui est bien, plutôt que seulement toujours regarder ce qui va pas, ce qui est pas bien, ce qui manque, ce qui est insuffisant, etc. Si cet homme qui voulait absolument corriger les autres, s'il était vraiment mu par la haine du mal, mais si c'était vraiment ça qui le motive, pourquoi ne l'aurait-il pas vu chez lui d'abord? Vous voyez? S'il ne la voit que chez les autres et pas chez lui, c'est la preuve même que sa motivation n'est pas bonne. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous faire des remarques les uns aux autres. Hein. Mais la question, c'est de se dire, quelle est la motivation? Quel but on poursuit? On a tellement envie de dire quelque chose à l'autre ou de le juger, mais sur quelle base? Est-ce que c'est la base de construire les choses de Dieu, construire l'œuvre de Dieu, ou simplement on a besoin de manifester que on espère se croire un peu supérieur, ou de prendre une revanche sur je ne sais quoi, ou de compenser autre chose, etc. Il y a tellement de mauvaises motivations qui doivent être changées. Vous voyez, l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor. C'est-à-dire que il faut pas que pour qu'il puisse avoir un bon trésor et de bonnes paroles, il faut pas que ce soit le canal soit obstrué par une poutre quelconque. Il ne peut dire de bonnes choses que si lui-même il est bon. Ce que Jésus veut dire par là, c'est que pour dire de bonnes choses, eh bien il faut que ça vienne du dedans, il faut que ce soit vrai, il faut que ce soit conforme, il faut qu'il y ait une conformité entre ce qui est dit et ce qui est et la source. Ce qui vient à l'intérieur. Hein. Vous voyez, on poursuit ici avec cette notion d'enseignement qui complète l'idée du jugement. Tout le monde pourrait, même un orgueilleux peut prêcher sur l'humilité. Il peut le prêcher même d'une bonne façon, il peut dire des choses justes, il peut dire des choses pertinentes, mais elles n'auront jamais aucun impact, parce qu'elles ne viennent pas d'une bonne source, elles viendront simplement d'une source de connaissances peut-être même bibliques, livresques, d'études, de quelque chose qu'on a vu, qu'on a lu, qu'on a compris par la raison. Mais tant que ça vient pas du dedans, tant que ça vient pas du fond, ça n'aura aucun effet. On peut faire des remarques à tout le monde sur leur égoïsme, mais si ça ne vient pas d'abord de la charité qui est à l'intérieur de nous-mêmes, on fera rien de bon. Voyez. Alors, vous avez d'autres quelques versets plus tard où Paul souligne encore ces notions. Je vous en lis deux ou trois. Romains 2, verset 1. On va lire quelques versets comme ça dans Romains. Romains 2, 1. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même. Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. C'est c'est clair comme ça. Un petit peu plus loin. Romains 14. Romains 14, verset 2. C'est à propos ici de la capacité de manger de tout, de s'abstenir de certains mets, de certaines viandes en particulier. Là, on parlait beaucoup de la viande. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible, je pense dans la foi, ne mange que des légumes, que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Dieu l'a accueilli. Voilà où l'apôtre Paul met une base, hein, c'est que ce qui est grave, c'est ce qui met un problème entre Dieu et nous. Lorsque quelque chose est pratiqué par quelqu'un et que ce n'est pas de nature à obstruer la relation qu'il a avec Dieu, c'est un point secondaire. C'est quelque chose qui est inférieur. Hein. Un tel juge celui qui mange beaucoup de chantilly, d'autres en mangent moins. Bon, qu'est-ce que vous voulez ? Hein? À tout hasard. Non, j'ai dit ça comme ça, à tout hasard. Alors, il faut bien que j'embête un peu mes collègues. Hein. 14-13. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, hein, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Hein, une pierre d'achoppement. Bon, c'est un mot un peu, c'est une expression un peu vieillie. Hein, on ne parle plus tellement de pierre d'achoppement. On dirait, je sais pas moi, un croche-patte. Qu'est-ce qu'on va dire, hein, quelque chose comme ça, quoi. Hein, soyons contemporains. Et puis, vous avez aussi dans Jacques 4, 12. Vous voyez, on fait un peu de lecture biblique aujourd'hui. Hein, on a le droit. Hein, c'est une église quand même. Hein. Jacques 4, 12. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu? Toi qui juges le prochain. Voilà. Alors, j'ai fini avec la première partie. Voilà la deuxième. La deuxième, c'est que la parole de Dieu nous demande de juger. Ah, vous allez dire, bon, mais alors, écoutez, là, ça devient compliqué, là, hein. Cette fois, ça devient compliqué. On lit d'abord dans 1 Corinthiens 2. Ça va, Joseph? Tu as trouvé? Sinon, il me gronde après. 1 Corinthiens 2,15. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Et il n'est lui-même jugé par personne. Ce que Paul veut démontrer ici, c'est que notre capacité d'analyse des faits, des comportements, des paroles, des doctrines, par exemple, du vécu, cette capacité doit être exercée. Ici, il est question de juger de tout. C'est un en grec, c'est... On pourrait dire de toute chose, ça peut être un neutre, ça peut être un masculin. Donc on peut comprendre de juger des personnes et on peut comprendre de juger des choses d'une façon très générale. Mais ça inclut tout. C'est-à-dire que le fait d'être adulte spirituellement nous donne la faculté de comprendre la valeur de ce qui est dit, de ce qui est fait. Ce que je veux dire, c'est que nous ne devons pas nous mettre, parce que, comme nous l'avons vu avant, nous ne devons pas juger de la valeur des personnes, et surtout des personnes devant Dieu, ça ne veut pas dire que nous devrions abdiquer de tout examen. Ça ne veut pas dire que nous devons devenir un peu intellectuellement décérébrés, et puis ne plus réfléchir, ne plus rien regarder, faire semblant de croire que tout va bien, que tout est bon, que tout est parfait. Ce n'est pas vrai. Lorsque des choses sont mauvaises, il nous faut les regarder comme mauvaises. Imaginez que tout à l'heure, en sortant sur le parking, vous voyez deux frères que vous connaissez bien, ils commencent à se disputer, ils commencent même, je ne sais pas moi, à se taper dessus ou quoi. Vous ne pouvez pas dire tout va bien dans le corps de Christ. On ne peut pas dire, ah non, non, ils se sont battus, non, ils ne se sont pas battus, ils se sont battus charitablement. Non, on ne peut pas contourner. On ne peut pas contourner. Ils ont fait quelque chose qui est mauvais et on va dire que cette chose est mauvaise. On a jugé d'un comportement, on l'a jugé. Et c'est un ordre de le juger. Mais nous avons aussi l'ordre de ne pas juger les personnes. C'est-à-dire que nous allons juger que leur comportement est mauvais. Mais nous n'allons pas porter sur eux un jugement qui les casse, qui les démolit, ou qui les rend, comment dire, qui les lie à quelque chose qui est à ce qu'ils ont fait qui était mauvais, comme si c'était forcément définitif, comme si ça représentait l'intégralité de leur personne. On va pas les mettre dans un, on va pas les rejeter, etc. C'est dans ce sens-là que nous n'allons pas juger personne, mais nous avons le devoir de reconnaître ce qui est bien et ce qui est ce qui n'est pas bien. Hein? Ça va? Vous me suivez? Bon, c'est bien. Non, parce que des fois, moi, j'ai du mal. Hein, alors. Non, je plaisante. 1 Corinthiens 5, 12. 5, 12. 1 Corinthiens 5, 12. Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Mais ôtez le méchant du milieu de vous. C'est plus difficile, hein? C'est plus difficile. Qu'est-ce que Paul veut dire? Ceux du dehors et ceux du dedans, c'est quoi? C'est pas une question seulement relative au bâtiment, hein? C'est le dehors et le dedans, c'est par rapport à la notion du royaume de Dieu. Or, ceux qui sont dedans, ce sont les enfants de Dieu. Ceux qui sont dehors, ce sont ceux qui ne le sont pas encore devenus. Mais on espère qu'ils vont le devenir, tous, hein? Ok. On n'a pas jugé qu'ils viendraient jamais, hein? Mais, donc c'est dans ce sens-là qu'il y a dehors, hein? Et dedans. Ce que Paul veut nous dire, c'est que de toute façon, ceux du dehors, nous savons bien que leur nature est une nature irrégénérée. Nous savons bien que c'est une nature qui est charnelle, c'est une nature qui est corrompue, c'est une nature qui est fausse, qui est mauvaise devant Dieu, c'est-à-dire ils sont ce que nous étions nous avant de nous convertir. Quelquefois, il faut le rappeler quand même pour pas oublier quand même d'où on a été tiré, quoi, hein? D'accord? Donc on n'a même pas à porter de jugement sur ça. On sait très bien ce qu'il en est, et on sait que leur seul espoir, c'est de se tourner vers Dieu, de se repentir, d'être pardonné par la repentance, par le pardon des péchés qu'ils recevront par la grâce, par la foi, hein, dans le sacrifice de Christ. Mais nous ne pouvons rien faire pour les changer par nous-mêmes. Mais ce que Paul veut dire, c'est que dans l'Église, nous devons être attentifs à ce qui se passe dans l'Église. Parce que ça, c'est le domaine où nous sommes, c'est le domaine où Christ règne, c'est le domaine où nous vivons avec lui. Alors, dans l'Église, il nous faut juger, c'est-à-dire discerner, reconnaître, analyser. Ça veut pas dire... comme dans certains siècles ça a été fait, jeter à tout va des anathèmes, des excommunications, etc. Il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de savoir ce qui est juste et pas juste. Et on ne peut pas dire que quelque chose est neutre si quelque chose est mauvais. Et c'est pour ça que l'Église doit être claire avec ça, savoir ce qui se passe au milieu d'elle, et que nous avons le devoir de dire que certaines choses sont bonnes et que certaines choses sont mauvaises. Ça s'appelle la discipline. Alors bien sûr, ça c'est un mot que... Alors le mot discipline aujourd'hui, bon, c'est des mots que, hein, c'est des mots qu'on devrait, je pense qu'ils vont l'enlever du dictionnaire la prochaine édition. C'est des mots que personne ne veut plus entendre. Bon, disciple, on veut bien encore, mais on oublie que disciple sans discipline, ça fonctionne pas. Mais voilà, dans ce sens-là, l'Église doit avoir l'honnêteté de reconnaître ce qui est juste devant Dieu, ce qui l'est pas. L'Église doit avoir le courage de le dire, et elle doit avoir l'autorité de faire savoir ce qu'elle accepte, ce qu'elle accepte pas, ce qu'elle trouve qui est convenable ou ce qui n'est pas convenable. Et c'est pas simplement une option, mais là ça devient un devoir. C'est un devoir. Ôter le méchant. C'est pas, l'apôtre Paul voulait pas dire, faites de temps en temps des listes d'excommunication et puis tous les mauvais, vous les virez, comme certains partis politiques qui de temps en temps font une purge, hein. On n'en est pas là. J'ai désigné personne, hein, et j'ai pas parlé de couleur. Mais il faut bien qu'on comprenne, ce qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que, en exerçant par l'autorité, hein, d'un jugement saint qui est fait avec l'Esprit de Dieu, qui est fait dans la connaissance de la parole de Dieu, ça va ôter le méchant parce qu'on va lui signifier qu'on a reconnu son comportement comme mauvais et que l'Église ne l'accepte pas. Maintenant, une fois qu'on l'aura dit et qu'on se désolidarise de ce qu'il fait, il est libre de ses actes. On va pas mettre sur lui un fardeau, on va pas, hein, le bras séculier de l'Église, ce sont des hérésies. Hein. Ok? Nous avons un devoir. Chapitre 6 encore. Chapitre 6, verset 3. Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Et nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Donc nous avons un devoir. Et ce que l'apôtre Paul a reproché le plus sévèrement aux responsables de l'église de Corinthe, c'était pas le fait que dans l'église de Corinthe, il y ait toutes les choses dont il a parlé au cours des chapitres, il y avait une personne au moins, en tout cas, qui était dans une situation d'inceste avec sa belle-mère, il y avait des gens qui faisaient toutes sortes de choses, il y avait des problèmes mystiques, il y avait des problèmes charnels, il y avait toutes sortes de ces choses-là. Mais toutes ces choses-là, finalement, Paul sait très bien que ça, c'est le reflet de la société humaine. Ce qu'il leur a reproché, c'est pas qu'il y ait ça. Ce qu'il a reproché aux responsables de Corinthe, c'est qu'ils ne l'ont pas jugé. C'est qu'ils disent, vous jouez les patrons, vous jouez les maîtres, vous jouez les chefs, vous prenez pour des apôtres, vous êtes des grands, vous comportez comme si déjà vous régniez, et il dit avec beaucoup d'ironie, puissiez-vous régner? Formidable, au moins on régnerait avec vous. Mais pendant que vous régnez, nous on est les balayeurs du monde. Alors régnez ce que vous voulez, mais la réalité, c'est que vous n'avez pas jugé dans le corps de Christ, dans l'Église de Dieu, vous n'avez pas jugé les choses qui devaient être jugées. Vous n'avez pas dénoncé, vous n'avez pas repris, vous n'avez pas corrigé, vous n'avez pas exhorté, vous n'avez pas enlevé ce qui était mauvais et qui allait corrompre tout le reste. Vous avez été faible. Vous jouez les patrons, les maîtres. Mais quelle est votre autorité? Spirituelle. Pas dans la structure, dans le monde spirituel. Et Paul leur dit que c'était une grande faute. Dans ce sens-là, ne pas juger est un péché. Ne pas utiliser l'autorité que Dieu nous a demandé d'utiliser est une faute. Nous devons, et je crois que quelques personnes, quelquefois, préfèrent se voiler la face lorsqu'ils sont devant des choses qui les dérangent. Ils préfèrent dire qu'ils ne les ont pas vues, parce que reconnaître qu'on les a vues, c'est être mis devant la nécessité de se prononcer. C'est être devant la nécessité de dire quelque chose peut-être à quelqu'un. Alors c'est plus facile de jouer le coup de la charité. J'ai rien vu, tout va bien. Oh, il est sûrement très gentil. Je veux juste dire ça au Seigneur. Mais non, si Dieu te l'a montré, peut-être que tu dois aller lui dire quelque chose. Quand Jésus dit, si tu vois que ton frère a péché, il dit quoi? Si tu vois que ton frère a péché, va dans ta chambre, prie pour lui, ne dis rien à personne. Non, je ne crois pas. Il dit, si tu vois que ton frère a péché, va, dis-lui. Va et dis-lui. Donc ça veut dire que Jésus part du principe que tu as jugé qu'il a péché. Tu as bien exercé ton discernement. Mais tu ne l'as pas condamné. Tu ne l'as pas cassé. Tu vas le voir et avec charité, tu vas lui en parler. Sinon, tu es en faute. Surtout en plus, si c'est pour ne rien lui dire à lui, mais aller le colporter à tout le monde, alors là, on multiplie les transgressions. Hein. Jésus a toujours jugé les gens qui venaient vers lui, et le plus souvent sans prononcer de jugement. Je m'explique. Par exemple, le jeune homme riche est venu devant Jésus. Jésus l'a regardé et Jésus l'a jugé. Il a vu qui est cet homme, quels sont ses vrais attachements, quel est son problème. Mais Jésus n'a pas prononcé une condamnation en lui disant « Ouh, je vois, tu es attaché au matérialisme ». Non, Jésus l'a pas fait comme ça. Jésus lui a proposé comment en sortir. En même temps, ça inclut le jugement. La proposition même que Jésus lui fait implique que Jésus a discerné quel est son problème. Parce qu'on propose une solution pour un problème. Qu'il n'y a pas des solutions sans problème, ça sert à rien. Mais Jésus lui a proposé une solution. Il l'a amené vers quelque chose qui était constructif. Maintenant, c'est sa responsabilité. Et je trouve que nous, souvent d'ailleurs, nous jugeons ce jeune homme riche de manière souvent très sévère. Regardez, la plupart d'entre nous, en lisant ce texte, nous l'avons jugé, oui ou non? Nous avons dit, oui, voyez, ce type, Jésus lui a dit de renoncer à tout, et il n'a pas renoncé à tout, il est parti. Mais est-ce que nous l'avons fait? Mais est-ce que nous, ce que nous reprochons à cet homme de ne pas avoir fait, est-ce que nous l'avons fait? La plupart d'entre nous, non. Mais comment ça se fait qu'on trouve qu'il a eu tort de ne pas le faire? Et nous, on ne l'avait pas fait non plus. moi, je trouve c'est marrant quand même. Non? C'est un peu fort quand même. Et pourquoi aurait-il dû le faire dans le quart d'heure qui a suivi son entretien? Combien de fois, lorsque Jésus nous a demandé des choses difficiles, combien de fois avons-nous décidé d'obéir dans la minute même qui a suivi? Pas toujours, allez, honnêtement. Des fois, on a dû quand même retourner ça au moins, j'allais dire au moins un jour et une nuit dans la tête. Peut-être, souvent je dis une nuit parce que c'est souvent la nuit qu'on dort plus, hein. Alors ça aide à se décider, on dit il faut quand même que je redorme, quoi. Donc on se décide à obéir. Mais il nous a quand même fallu un petit peu du temps. Qu'est-ce qui nous dit que ce jeune homme, après un jour et une nuit sans dormir, n'ait pas pris une bonne décision? On n'en sait rien. Comment est-ce qu'on juge si rapidement quand même? Des fois on juge en bien, trop rapidement aussi. Rappelez-vous de cet homme qui servait David et qui s'appelait Achitophel, qui était regardé comme un homme extraordinaire. On dit que c'était un conseiller de David. On dit que quand il donnait des conseils, son conseil était perçu, reçu, comme si c'était le conseil de Dieu lui-même qui descend sur terre. Et tout ce qu'il faisait, on disait toujours. Et le jour où le premier conseil que cet homme a donné n'a pas été suivi, eh bien, Achitophel en a été tellement perturbé qu'il s'est suicidé. Alors là, on se dit, ah, mais alors quelle était la motivation de cet homme? Quel était le fond de cet homme? Un homme qui était carrément adulé par tout un peuple, regardé comme quelqu'un d'incontournable, un conseil sûr, solide, divin carrément. Et on s'aperçoit que la motivation était qu'une motivation de satisfaction et de gloire personnelle. Vous voyez, dans tous les sens, on juge quelquefois un peu vite. Mais que Dieu nous aide à être attentifs. Frères et sœurs, peut-être que ce soir, pendant que nous parlons, peut-être que quelqu'un a l'œil qui lui pique un peu. Non? Regardez-vous voir les uns les autres là. Regardez voir si la personne qui est à côté n'a pas l'œil qui le démange un peu. Non? Regardez voir, peut-être c'est une, vous savez, des fois c'est une petite paille. Peut-être c'est une petite paille, il faudrait. Dites-lui qu'il ouvre grand l'œil, puis vous allez lui enlever la paille, hein? Mais fais attention à la poutre qui est dans ton œil. Il y a beaucoup de chrétiens qui, quelquefois, c'est pas une poutre, c'est un apôtre qu'ils ont dans l'œil. Et ça, c'est très dangereux pour le corps de Christ, hein? Frères et sœurs, les lois fondamentales du royaume de Dieu, la loi fondamentale, à notre niveau, c'est de nous aimer les uns les autres. Nous ne pouvons pas faire de progrès dans cette dimension-là si ce jugement ne sort pas de nous-mêmes, si nous ne nous dégageons pas de ça, si ce n'est pas le Seigneur qui vient d'abord lui-même ôter ce qui a besoin d'être ôté. Et alors nous pourrons nous faire du bien. Je ne dis pas que nous ne devons pas nous faire du bien. Mais justement, nous devons nous faire du bien avec les bonnes choses que nous tirerons du bon trésor que Dieu aura purifié au fond de nous. Amen. Alors on va prier. Hein? Et si quelqu'un pense qu'il a ce soir besoin de l'ablation d'une poutre, demandez honnêtement au Seigneur. Demandez-lui honnêtement. Ne contournons pas. Seigneur notre Dieu, nous voulons te remercier. Nous voulons te remercier de nous avoir donné dans ta parole des exemples aussi, des images aussi claires, hein, aussi limpides et qui quelquefois nous dérangent tellement. Te remercions Seigneur de ce qu'elles sont dérangeantes. Nous ne voulons pas Seigneur, nous ne voulons pas nous porter des jugements charnels. Nous ne voulons pas nous détruire. Seigneur, tu sais que nous voulons nous aimer. Nous voulons nous faire du bien. Nous voulons nous encourager, nous voulons nous exhorter par l'Esprit de Dieu, par selon les lois de l'amour que tu as mis dans nos cœurs. Nous t'en prions, Père, au nom de Jésus. Je voudrais te demander, Seigneur, ce soir, pour ceux qui reconnaissent avoir un problème vraiment avec ce jugement facile, ce jugement acerbe, ce jugement sans fondement, et qui veulent s'en débarrasser. Maintenant, au nom de Jésus, dites-le au Seigneur. Dites-lui, Seigneur, je renonce à cet esprit de jugement. Je ne veux plus juger mes frères et sœurs. Je ne veux plus les condamner. Je veux les acquitter. Je veux les aimer. Je veux être réaliste, Seigneur, et plein d'amour. Merci, Seigneur. Merci de me purifier. Je te demande pardon, Seigneur, d'avoir été souvent quelqu'un qui juge. Pardonne-moi, que le sang de Jésus maintenant me purifie et me pardonne. Merci Seigneur de nous donner, Seigneur, nous tous ensemble, le corps de Christ. Hein. Merci Seigneur de nous donner cette capacité de nous construire dans des relations vraies, dans des relations d'amour. Hein. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Ce message vous est offert par la Porte Ouverte Chrétienne de Mulhouse. Retrouvez-nous sur le www.porte-ouverte.com.